sommes encore qu'à l'aube de notre connaissance du cerveau et c'est déjà fascinant.
Nous autres, ce soir, à partir de 20h, France Inter, la différence.
Nous autres ce soir, mais maintenant, là-bas, si j'y suis, avec Daniel Mermet.
Dans un pays européen, pendant 17 ans, il y a eu un homme qui a réussi à garder le pouvoir parce que, entre autres, il était propriétaire des plus grands médias qui faisaient sa propagande. On ne peut pas dire que cette façon de faire soit très démocratique. Mais durant toutes ces années, ni la BCE, ni le FMI, ni l'OMC, et encore moins le Parlement européen, n'a fait de pression pour éliminer le petit dictateur. Puis voilà que ce pays cumule une dette de 1700 milliards d'euros. Et là, le marché financier prend peur et limoge instantanément le personnage dangereux. Notez qu'on ne l'a pas limogé parce qu'il ne respectait pas la démocratie, mais parce que les banques ont eu peur de ne pas se faire rembourser. La morale de cette histoire est que l'Europe n'en a pas.
Bonjour, je suis l'argent. Je suis retenu dans les paradis fiscaux.
Bien au chaud, et je me marre.
On vous fait croire à une crise, une baisse de l'indice de notation, et l'on vous supprime de plus en plus de services publics au bénéfice du secteur privé qui me concentre encore et encore dans les paradis fiscaux. Et vous? Vous vous laissez faire. J'étais l'argent. Salut.
Oui, bonsoir. J'ai entendu sur France Inter que les cendres du général Bijard allaient être transférées aux Invalides. Dans les chiottes. Allez, à plus.
Ce qui est assez surprenant, c'est de voir toute la puissance de réflexion, toute la matière grise qui a pu être déployée pour développer des outils financiers qui nous ont menés là où ils nous mènent, ce qui d'ailleurs n'est pas terminé. En revanche, moi, c'est confondant de constater le peu d'intelligence, le peu de réflexion qui nous est proposé pour en sortir de nous serrer la ceinture. C'est tout ce qu'on nous propose. Donc voilà, que fait-on de notre cerveau? Que font les élites de leur cerveau? Telle est la question.
Bonjour, je m'appelle Fedra et j'habite à Thessalonique et je suis très très fière que vous avez parlé en grec aujourd'hui pour ma fille.
Bonjour, c'est Fedra qui voulait vous laisser un message. Elle était très contente, on a écouté votre émission qui parlait de la Grèce, elle était très fière. Voilà, merci.
Merci pour tous ces messages, chers AMG. D'abord, oui, on va aller en Grèce, bien évidemment. Vous allez nous rejoindre là, à Athènes, où nous sommes. Mais d'abord, je voudrais remercier les 145 000 auditeurs qui nous ont rejoints depuis un an. 145 000 auditeurs de plus pour là-bas, si j'y suis, en un an. C'est une très belle performance. Et nous sommes 558 000 tous les jours de chaque côté du transistor. 558 000, en principe, c'est les chiffres médiamétrie de cela. Je voulais vous remercier tout d'abord. Ensuite, aujourd'hui, la grande manif d'hier qui a eu lieu ici à Athènes, 17 novembre, chaque année, commémoration de l'insurrection étudiante, cette fameuse insurrection du 17 novembre 1973 qui allait entraîner la chute de la dictature des colonels qui a duré de 67 à 73 précisément. Alors, bien sûr, une grande manif, une grande insurrection populaire a permis le renversement d'une dictature ONI. Du coup, on se dit, il suffit de descendre dans la rue pour que les choses changent. Et c'est ce que les Grecs ont fait hier, ici, contre le coup d'État financier, ce qu'ils appellent le coup d'État financier. On mesure mal en France ce qu'est aujourd'hui le chaos, le marasme dans lequel se trouve la Grèce. De la dictature de la junte à la dictature des marchés, c'est ce qu'on a entendu hier tout le long de cette manifestation. Alors aujourd'hui, le gouvernement provisoire de Luca Papademos, ancien responsable de la BCE, ancien de Goldman Sachs, avec son gouvernement de coalition dans lequel se trouve en très bonne place un parti d'extrême droite particulièrement xénophobe, antisémite et qui pose plein de problèmes, eh bien, ce gouvernement reçoit ce qu'on appelle la Troïka, c'est-à-dire le FMI, la Banque Centrale Européenne et les représentants de l'Union Européenne. Voilà où nous en sommes. Alors, mouvement profond en Grèce, là où je suis aujourd'hui au coin d'une rue d'Athènes, on entend des manifestants, ça n'arrête pas dans ce pays. Et pourtant, un sondage indique que 75% des Grecs feraient confiance à l'actuel gouvernement provisoire. Alors, on ne sait pas si c'est de l'intox ou de l'info, mais ça fait réfléchir quand même. Voilà ce qui s'est passé hier à Athènes, vu par là-bas si j'y suis, avec Antoine Chao, Yves à Paris et toute l'équipe de là-bas si j'y suis. Et puis, dans les rues de Paris, Grégory Salomonovitch aussi, vous allez l'entendre, a baladé son micro. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37.
Salut Daniel, salut les AMG et salut aux indignés, aux révoltés du monde entier, avec en particulier un grand salut au peuple grec, dont le courage et la combativité devraient servir d'exemple à tous. Parce qu'ils ont tout compris, nos amis grecs. Ils ont compris que si on voulait une vraie démocratie, il allait falloir s'unir pour l'imposer.
Nous sommes ce soir, jeudi soir, à la Fontaine des Innocents à Paris, dans le premier arrondissement, juste à côté des Halles, où se tient un rassemblement en soutien au peuple grec, qui subit de plein fouet la crise économique actuelle et les plans de rigueur qui se succèdent dans le pays. Ici sont réunis à peu près 200 à 300 personnes, des personnes qui brandissent des drapeaux du NPA, des drapeaux également de ATTAC ou encore du parti de gauche, mais également des drapeaux cubains, des drapeaux grecs.
C'est de cela dont il s'agit, un coup d'État financier contre les démocraties en Europe. Et évidemment, en Grèce, ça a été souligné une dimension particulièrement inquiétante avec l'entrée de l'extrême droite au gouvernement. Ce que les urnes grecques n'auraient jamais fait, les marchés financiers viennent de le faire. Et ce coup d'État financier est à l'œuvre dans tous les pays, y compris chez nous, où on veut nous imposer les politiques au nom de ce qu'ils appellent le triple A. Triple A comme austérité, triple A comme argent roi, et triple A comme autoritarisme et arbitraire. Eh bien, cette loi-là, cette loi des marchés, nous la refusons. Et nous devons travailler avec obstination à l'unification, à l'unité, à la solidarité de tous les peuples européens.
Bonsoir madame, vous pouvez m'expliquer la raison de votre présence ici et ce drapeau grec que vous portez sur les épaules?
Bah écoutez, je suis très proche des Grecs, je suis portugaise, donc quand j'entends dire les gens que les Grecs vivent au-dessus de leurs moyens, que les Portugais vivent au-dessus de leurs moyens, je me demande quel Grec et quel Portugais. Est-ce que c'est les Portugais? Parce qu'au Portugal par exemple, plus la moitié des retraités reçoivent moins de 300 euros de retraite. Alors est-ce que ça, c'est vivre au-dessus de ses moyens? Est-ce que gagner le salaire minimum de 485 euros, c'est vivre au-dessus de ses moyens? Alors au Portugal, à l'heure actuelle, on estime que chaque mois, il y a 117 familles supplémentaires qui demandent de l'aide alimentaire. Et le profit de ces familles a changé. Il y a déjà des gens de la classe moyenne qui sont en train de demander de l'aide alimentaire.
Solidarité avec le peuple grec.
Voilà, nous voilà 3 ans après à Athènes. Et il y a 3 ans, on n'a pas réussi à entrer dans l'endroit où nous sommes ici. On n'a pas eu la possibilité d'entrer, c'était une place forte, c'était extrêmement violent, il y avait des manifestations très très violentes. Et à l'intérieur de ce sanctuaire, des jeunes cagoulés qui n'avaient pas du tout envie qu'on rentre dans cet endroit, qu'on soit journaliste ou qu'on ne le soit pas. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, la situation s'est aggravée de façon générale, mais ici, la situation s'est améliorée. Il fait beau et on peut entrer. Et aujourd'hui, c'est une commémoration, c'est un jour très important pour plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est que c'est le 17 novembre 2011. Et aujourd'hui, on célèbre quelque chose de très important. Est-ce que tu peux nous dire, Hélène, ce qu'on célèbre ici aujourd'hui, 17 novembre ?
En fait, c'est le 17 novembre 1973, le soulèvement du mouvement des étudiants qui sont enfermés dans l'école polytechnique en demandant le départ, la chute de la dictature des colonels. Et c'était le début de l'insurrection, en fait, de la chute du régime et de la dictature des colonels.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec Antoine Chao depuis Athènes, de la dictature des colonels à la dictature des marchés. Flight number two. Arriving from...
Le 17 novembre 1973, les blindés de la dictature sont rentrés ici par la force.
Ici, là où nous sommes, par cette force.
Justement.
Par cette grille là où nous sommes, les blindés sont entrés.
Voilà. Et c'était, il y a eu plusieurs morts, mais c'était une victoire provisoire pour le régime parce que c'était le début de sa fin.
D'accord. Là, aujourd'hui, ça c'est une des raisons de la commémoration. Cette commémoration, elle a lieu... Tous les ans, il y a un défilé qui part d'ici, de Polytechnique, et qui va vers l'ambassade des États-Unis. Qui se dirige vers l'ambassade des États-Unis. Pourquoi cette cible ? Pourquoi l'ambassade ?
Parce qu'on considère, et c'est une question historique, que les États-Unis ont joué un rôle crucial pour l'établissement de la dictature. Qu'ils ont dicté, en fait, aux colonels, voilà, de prendre le pouvoir.
Dans le cadre de la guerre froide de l'époque, les États-Unis voulaient que la Grèce soit de leur côté contre le monde communiste. Donc il n'était pas question qu'il y ait des communistes ici, un parti de gauche, d'où le soutien des États-Unis à la dictature.
Oui, tout à fait, parce que justement, vers la fin des années 60, c'était l'entrée, l'arrivée au pouvoir des sociodémocrates, du parti du centre. En fait, c'était le grand-père de l'ancien premier ministre de Georges Papandréou, le grand-père de Georges Papandréou, qui s'appelait évidemment Georges Papandréou, il était premier ministre à l'époque. Et justement, les colonels ont pris les pouvoirs en réaction à ce qu'ils considéraient comme une sorte de dérive au niveau de la politique pour sauver en quelque sorte la Grèce de la dérive communiste, socialiste. Vous voyez, c'est ça.
Le centre d'Athènes, hier après-midi.
ORTF. 18 novembre 1973.
L'agitation des étudiants qui durait depuis plusieurs jours grossit. Les partis de revendications universitaires débouchent sur l'agitation politique. Le gouvernement, jusque-là conciliant, s'inquiète, surtout lorsque des centaines d'ouvriers commencent à se joindre au rassemblement de quelques 10 000 étudiants. Dans l'école polytechnique, où ils sont retranchés depuis 3 jours, les étudiants multiplient les appels au soulèvement populaire. Pendant la nuit, pierre, barricades et incendies, c'est l'émeute et l'épreuve de force. Les blindés grondent dans Athènes, renversent les barricades. Les forces de police évacuent par la force l'école polytechnique. 4 morts, 100 de blessés et de nombreuses arrestations. Quand le jour se lève, voilà le spectacle qu'offrent les rues du centre d'Athènes. La loi martiale est rétablie et le couvre-feu imposé. La timide démocratisation en cours en Grèce apparaît compromise. Les étudiants d'ailleurs, débordant les partis d'opposition, ne veulent pas de retour à une vie parlementaire normale, mais l'instauration d'un pouvoir de type populaire.
Alors aujourd'hui, voilà ce qu'on célèbre ici à Athènes, mais on célèbre aussi autre chose, enfin on proteste aussi contre une autre dictature, au moins c'est comme ça que c'est interprété et que c'est vécu ici, c'est la dictature de la Troïka.
la dictature de la Troïka, la dictature des banques, la dictature de la finance. Aujourd'hui, on fait une lecture très actuelle, une lecture très politique contre la rigueur, contre la politique imposée par l'Union européenne, la Banque centrale européenne, le Fonds international, le Fonds monétaire international.
Voilà. Alors, ça, c'est les intellectuels politisés qui font ce rapprochement ou c'est tout le monde ?
Non, non, non. Surtout la jeunesse. La jeunesse, est très politisée. Alors, c'est le moment de la jeunesse aujourd'hui. Hein. C'est la jeunesse qui parle aujourd'hui. Vous voyez autour de vous, c'est surtout la jeunesse qui prend le relais de leurs confrères d'il y a une quarantaine d'années.
Et là, il y a un reposoir avec des fleurs, des gerbes, des drapeaux grecs. Voilà. On brandit des pancartes.
Voilà, juste cette pancarte, elle dit que la science doit être au service du peuple dans son pouvoir. Voilà.
Parce qu'ici, c'est l'école polytechnique, donc c'est ici qu'on enseigne la science, sciences.
Voilà, c'est ça, c'est justement ça. Ça, ce sont des débris de la grille de 1973.
Des débris de la grille de 1973.
Le 17 novembre 1973, voilà.
Le 17 novembre 1973.
La grille originale, en quelque sorte.
Voilà, qui a été fracassée par les blindés.
Par les blindés de la dictature.
Qui sont entrés ici à Polytechnique, dans cette université qui est au centre d'Athènes. Et qui est un sanctuaire. Et c'est là qu'a commencé la fin de la dictature grâce à ce soulèvement. Bon, on appelle ça une insurrection.
C'était une insurrection, voilà. Juste une insurrection populaire, sans être dirigée par des partis politiques.
J'allais te poser la question. Je suppose qu'aujourd'hui, qui revendique cet héritage?
Les partis de gauche, surtout les partis de gauche. Mais à l'époque, les partis de gauche, lors des moments cruciaux de l'insurrection, la plupart des partis de gauche étaient absents. Ils ont essayé d'accaparer, comme ça arrive toujours, après coup.
Parce
qu'à l'époque, voilà.
Toi, tu dis que c'était une insurrection spontanée, et ensuite, les partis de gauche et l'extrême gauche ont récupéré...
Ont essayé de récupérer à leur profit politique, tout... À l'époque, non, c'était vraiment spontané.
Alors, si tu veux, on va se balader un peu dans l'université, dans Polytechnique, le long des stands, avec toute cette... ça rappelle vraiment mai 68 en France, hein, à Paris. Avec tous ces stands
De jeunesse politique, de partis politiques, d'extrême gauche.
Δεν συνεμορφωθήν προς τας υποδείξεις. Διότι δεν συνεμορφωθήν προς τας υποδείξεις. Πέρα από το γαλάζιο κύμα, τον γαλάζιο ουρανό, μια μανούλα περιμένει χρόνια τώρα να τη δω. Μια μανούλα περιμένει χρόνια τώρα να τη δω. Πέρα από το γαλάζιο κύμα, τον γαλάζιο ουρανό. Συνεμορφωθήν προς τας υποδείξεις. Διότι δεν συνεμορφωθήν προς τας υποδείξεις. Αλικάρνασος παρθένη, όροπος κορίδαλος, ο Λεβέντης περιμένει της ελευθερίας το φως. Ο Λεβέντης περιμένει της ελευθερίας το φως. Αλικάρνασος παρθένη, όροπος κορίδαλος. Δεν συνεμορφωθήν προς τας υποδείξεις. Διότι δεν συνεμορφωθήν προς τας υποδείξεις.
Στεφάνη, στον χώρο του Πολυτεχνείου καταθέτει ο Σύλλογος Εργαζομένων του Εθνικού Συμβουλίου
Ραδιοτηλεόρασης. C'est le slogan de l'époque, du pain, de l'éducation et de la liberté.
Du et pain, ça... de l'éducation et de la liberté.
Et ça sent en grec, ça sent très bien. Ça sent très bien. Psomi, pévia et eleftheria. Ce sont trois mots capitaux, en quelque sorte. Du pain, de l'éducation, de la liberté. Alors, en grec, ça sent très bien.
Et on reprend aujourd'hui, avec la crise que vous vivez, vous reprenez du pain...
de l'éducation, de la liberté. Alors on sent que ce sont trois choses très élémentaires qui sont actuellement effectivement contestées par ces tsunamis, cette politique des rigueurs imposée.
Tsunami, tu as dit.
Ouais, parce que la baisse du niveau de la vie de tous est très brutale, presque dramatique. Et ça se voit, puis après peut-être on va se balader... juste en centre-ville d'Athènes et vous allez voir combien de boutiques sont fermées. C'est très difficile. Juste vous donner un chiffre pour avoir un peu, se faire une idée. Le chômage, ça vient de grimper à 18% selon les statistiques officielles.
Ouais.
De 12% il y a un an, ça vient de grimper à 18%, selon les statistiques officielles. Alors ça signifie que c'est effectivement que le chômage est beaucoup plus important.
Et pour la jeunesse.
Et un deuxième chiffre, la jeunesse, voilà. 43,5%. 43,5%
des moins de 25 ans.
Des moins de 25 ans, ouais. Le chômage. Alors c'est vraiment du jamais vu. Du jamais vu. Sans prendre en considération le job, le boulot précaire... les gens, enfin les jeunes qui gagnent 200 euros par mois, vous voyez.
Une fille là. Qu'est-ce qu'elle
ça,
distribue?
C'est une brochure. C'est une jeunesse du parti Synaspismo, c'est une partie parlementaire de gauche qui. Voilà, ils ont leur brochure, ils sont en train d'actualiser le message de la lutte de 73. Et il dit ici que l'histoire est écrite par les luttes, par la lutte ou les luttes, comme vous voulez.
D'accord, mais rapprochement entre 1973
voilà,
et 2011.
Voilà. C'est ça. C'est pourquoi j'ai évoqué l'actualisation du message de 73. Le point commun, c'est la lutte, en fait. Comme les étudiants ont lutté en 73 contre la dictature, on est en train de lutter contre la rigueur, la dictature des marchés, la dictature des banques.
Qui fait partie de Syriza ou c'est autre chose?
Oui, ça fait partie.
Alors explique-nous un peu le panorama. Oula. En gros, quoi.
Alors donc, là, ça va être difficile.
Bon, en très grand, en grosso modo.
Oui.
Il y a.
Fais-nous grosso modo.
Bon. Selon leur représentation dans le Parlement. Alors c'est le Parti communiste.
Le KKE.
Voilà, le Koukoué.
Koukoué.
Ça, eux, ils font entre 8%, 10% dans les sondages. C'est des partis... je pense que c'est le dernier parti orthodoxe, communiste...
stalinien.
Sur la planète.
Qui se réclame encore de Staline.
Oui, dernièrement, oui. Il veut réhabiliter le stalinisme en disant qu'enfin, il n'était pas si mal que ça. Il faut quand même...
D'accord.
Bon, alors, c'est le parti communiste.
Ouais. Donc et ça, puis, ça fait autour de 10%.
10%, voilà. Selon les derniers sondages, c'est autour de 10%. Et en plus, ils ont une approche des choses un peu sectaire, c'est-à-dire
orthodoxe, sectaire.
On ne veut pas collaborer, on ne veut pas coopérer avec les autres gens, ils ont leurs propres syndicats, ils font leurs propres marches au cours de grèves générales. Ils veulent faire les choses tout seuls. Bon, alors passons. Et puis, il y a une sorte d'organisation plurielle, Syriza, qui est composée de plusieurs composantes en quelque sorte, dont la composante la plus importante, côté organisation, côté enfin représentation politique et tout, c'est Synaspismos.
D'accord. Alors, au total, Syriza fait combien ? Il représente quoi sur la scène
là, honnêtement, lorsqu'il y a eu les élections il y a deux ans, c'était entre 3,5%. Mais là, maintenant, les sondages le donnent un peu au-dessus du Parti communiste.
Autour de 10.
Autour de 10, effectivement, il y a des sondages qui nous donnent de 12%, 11%, un peu plus de, par rapport au parti. Mais ce sont des sondages. Hein. Mais on a l'impression que ce parti-là a maintenant le vent en poupe, en quelque sorte.
D'accord. Alors voilà un deuxième élément à gauche. Ensuite, on a le PASOK.
Non. Ensuite, il y a un autre parti.
C'est pas la gauche, le PASOK.
Non, en fait, si vous dites ça ici, hein, vous risquez de vous faire insulter, tabasser, exclu du lieu, de l'endroit. Si vous dites que le PASOK est parti socialiste, hein, vous faites... Non, après, il y a un autre parti qui vient d'être créé il y a un an. Qui a quitté Synaspismos, en fait. C'est une scission, justement, qui s'appelle la gauche démocratique. Alors, eux, se veulent, selon leurs propres mots, être la gauche responsable. C'est-à-dire que on peut discuter la possibilité de gouverner un jour, enfin, très lointain, après les événements récents, avec le Parti Socialiste. Mais ça, après les événements récents, l'entrée dans le gouvernement de gens de l'extrême droite, cette éventualité s'éloigne. Mais de toute façon, c'est la gauche de la responsabilité, il s'appelle comme ça. Et là, maintenant, selon les sondages, leur donne environ entre 3 et 6 %. Et puis, il y a toute une sorte de kyrielle, des petits groupes, groupuscules, des mouvements, des sensibilités, les uns plus de gauche que les autres.
Donc à la gauche de Syriza.
Ouais. Il y a toutes sortes de stalinistes, des maoïstes avec la veuve de Mao avant la mort de Mao, avec la veuve de Mao après la mort de Mao. Tu vois, c'est complètement fou. Hein. Il y en a.
Et c'est tous ces gens-là qui sont ici aujourd'hui.
Ouais, ouais, ouais.
À l'école
parce qu'ils ont l'impression de se faire entendre, de distribuer leurs tracts, leurs brochures. Voilà, en gros, le paysage de la gauche actuellement en Grèce.
Alors, il y a les anarchistes.
Bien sûr, mais ils n'ont pas d'expression, organisée. Il y en a tout. Il y en a des anarchistes articulés, avec un discours... intéressant, et puis il y a des anarchistes simplement violents, hein, qui veulent casser la tête des flics, se faire du flic, casser tout, et puis voilà. Vous allez voir qu'il va y avoir des clashs entre des anarchistes qui vont se taper sur le groupe du Parti Socialiste, parce qu'en fait le PASOK a fait entrer dans le gouvernement des ministres de l'extrême droite. Alors là, ça va péter, on a l'impression que ça va être très chaud.
Pour mettre en place ce gouvernement d'unité nationale,
France 24,
le nouveau Premier ministre grec, Loukas Papademos, a dû ouvrir la porte au Laos, l'unique parti grec d'extrême droite.
14 novembre 2011.
Un membre de l'alarme populaire orthodoxe s'est vu confier le poste de ministre des Transports. Trois autres deviennent vice-ministres. En faisant entrer le Laos au gouvernement, Loukas Papademos joue la coalition pour sortir le pays de la crise. Fort de ses 16 députés depuis 2009, l'extrême droite est devenue un parti qui compte sur la scène politique grecque. Le nouveau Premier ministre aurait eu des difficultés à l'exclure du gouvernement. Aujourd'hui, la quatrième force politique du pays, derrière le PASOK, la droite conservatrice et les communistes, entend peser sur la question de la dette.
Oui, alors il faut en parler un peu de ce parti d'extrême droite, le Laos.
Le Laos.
Laos.
Déjà le nom. Le Laos signifie le peuple en grec. Et ils ont repris les lettres, les initiales, Rassemblement orthodoxe et populaire. Rassemblement orthodoxe et populaire, pour donner les deux. Et ça, en grec, ça donne Laos, qui en grec signifie le peuple. Alors déjà, ils ont eu cette idée assez géniale, il faut accepter quand même, de se faire appeler comme ça. Et puis, ils ont dans leur rang des gens qui sont carrément antisémites, qui ont été condamnés par des tribunaux pour antisémitisme. Il y a des admirateurs de Hitler, il y a dans ce parti des admirateurs du national-socialisme, il y a des racistes. Par exemple, hier, dans le Parlement, au cours de la séance pour le vote de confiance, il y avait un député de Laos qui a dit que quand même, il faut que tous ces gens qui viennent du Bangladesh retournent chez eux parce qu'ils sont en train de nous saigner. Ils prennent notre argent et ils dirigent l'argent chez eux, comme si c'était des profiteurs qui dirigent leur argent vers les banques suisses. Vous voyez un peu l'ambiance.
Oui, mais ils sont au pouvoir, ils sont au gouvernement.
Oui, leur taux.
Ils ont quatre ministres au gouvernement.
Ils ont quatre ministres.
Ils soutiennent ce gouvernement.
Absolument.
Ils ont soutenu depuis longtemps M. Papademos, qui est le Premier ministre.
Depuis des ans, M. Karadzeferis, leur président, demandait la formation justement d'un gouvernement avec des technocrates qui ayant à sa tête M. Papademos.
M. Papademos, oui. Mme Lagarde, notre Française, Mme Lagarde, est absolument enchantée qu'il occupe ce poste désormais. Elle le félicite, elle l'encourage, vraiment, elle est très contente.
C'est pas la seule. Madame Merkel, M. Sarkozy, tous les banquiers, parce que quand même, il fait partie du Sérail, en quelque sorte, M. Papadimos, il s'y connaît. C'était ancien gouverneur de la Banque centrale de Grèce jusqu'à 2002. Alors, il était au courant de cette opération assez douteuse de la part de la Goldman Sachs, qui a vendu très cher d'ailleurs ses services pour maquiller, truquer les comptes publics grecs pour rentrer dans la zone euro. Tous les gens là, si vous leur demandez pour qui roule Papadimos, ils vont vous répondre qu'il roule pour les banques.
Bien sûr.
Pour Goldman Sachs, au profit des institutions bancaires, des marchés.
Pas question pour les Grecs de se serrer la ceinture. Ils l'ont fait savoir à leur gouvernement par une grève générale et des manifestations qui ont parfois dégénéré.
France 24.
Même s'ils sont conscients qu'ils n'ont pas le choix, ils ne veulent pas du plan d'austérité.
26 février 2010.
Mais l'État est au bord de la faillite et Bruxelles réclame des explications. Car il semblerait que pour entrer dans la zone euro, les autorités grecques aient masqué l'ampleur de leurs déficits par des montages financiers. À l'époque, ils étaient légaux. Aujourd'hui, ils seraient à l'origine de cette crise sans précédent. Principal incriminé, la banque américaine Goldman Sachs, qui aurait conseillé des montages douteux. Non seulement Goldman Sachs aurait aidé à maquiller la dette abyssale des Grecs, mais en plus la banque est soupçonnée de spéculation contre le pays. Tandis que la banque américaine s'est enrichie sur le dos de la Grèce, la même banque qui avait été renflouée par les États-Unis au moment de la crise des subprimes.
Hélène, ici, on est toujours dans Polytechnique.
Ouais, nous sommes au cœur de l'école Polytechnique.
Polytechnique, au cœur d'Athènes, au cœur de la crise.
Qu'est-ce qu'il y a sur la banderole, là, Hélène ?
Les soulèvements ne font pas partie des musées. Allons-y pour préparer le soulèvement de l'école polytechnique de notre génération.
Là, on rentre dans l'université et c'est couvert de graffitis et d'affiches.
Ce sont des photos de la résistance et de la guerre civile. C'est-à-dire que la guerre civile, la résistance, c'était dans début des années 40, 1940. Et puis la guerre civile, c'était 1946 jusqu'à 1949, 3 ans. C'était l'armée de la droite, l'armée gouvernementale contre l'armée populaire du Parti communiste, qui s'est terminée par la défaite de l'armée populaire.
En 49.
49, c'était 49, c'est la fin de la guerre civile en Grèce.
Alors là, on va entrer dans cette salle.
C'est une sorte d'exposition photographique des années de la dictature. Voilà. Là, c'était des photos des premiers jours où c'était les blindés de la dictature sont sortis de leur caserne et ont envahi le centre d'Athènes. Vous voyez ici les tanks là, devant le Parlement, vous voyez, stationnés devant le Parlement.
Place Syntagma.
C'est ça, Place Syntagma.
On peut demander aux jeunes filles là ce qu'elles voient. Bonjour. Quel âge vous avez ?
Quel âge ? 24.
Moi aussi.
Ok. Vous finissez vos études, vous travaillez ?
Oui, justement, on vient terminer nos études, on cherche du boulot, mais on ne trouve pas.
Qu'est-ce que vous faites là ? Vous êtes en train de regarder cette exposition, les photos, les images, déjà anciennes, puisque ça date de 1973. Vous la connaissez, cette insurrection de 1973 ? Qu'est-ce que ça représente pour vous, qui avez 24 ans ?
Βασικά είναι κάτι που το κάνουμε κάθε χρόνο και ενώ κάθε χρόνο βιώνουμε τις ίδιες συνθήκες και βλέπουμε το ίδιο υλικό είτε οπτικό είτε φωτογραφικό είτε οτιδήποτε νιώθουμε πάντα τα ίδια αισθήματα που για μένα προσωπικά είναι οργή.
On fait ça, on vient tous les ans et malgré le fait que on voit toujours la même chose, les mêmes choses, les photos, on écoute les mêmes chansons, on ressent les mêmes choses, c'est-à-dire une sorte de colère.
Συγκίνηση. Νιώθω ότι στους καιρούς που βιώνουμε πρέπει και εμείς να καταφέρουμε κάτι τόσο μαζικό.
De l'émotion et puis le sentiment que nous également que nous sommes en train de vivre ce temps très difficile, il faut qu'on arrive quand même que nous-mêmes on fait quelque chose d'aussi important que.
Εν τέλει τότε προσπάθησαν να ρίξουν μια χούντα για να φέρουν τη δημοκρατία. Η δημοκρατία που έχουμε τώρα για μένα δεν λειτουργεί.
À l'époque, les étudiants, ils ont voulu faire tomber la dictature, faire venir la démocratie, mais actuellement, selon moi, la démocratie ne marche plus aujourd'hui en Grèce.
Οπότε θα πρέπει να καταφέρουμε να φτιάξουμε ένα σύστημα που να είναι όντως δημοκρατικό και όντως να υπολογίζει τους πολίτες.
Alors il faut quand même essayer de créer un système vraiment démocratique qui va représenter de façon authentique les gens.
Vous êtes prête pour l'insurrection?
Νομίζω πως ναι.
Oui, tout à fait. Oui, je pense que oui.
Νομίζω πως ήρθε η ώρα πλέον.
Je pense que c'est le moment. C'est le moment.
Mais violente?
Για μένα όχι βίαιη. Για μένα όπως κάνανε αυτοί. Δηλαδή ήρεμα και όμορφα, έξω από το Πολυτεχνείο, διαδηλώνανε χωρίς βία, άσχετο αν η αστυνομία ή ο στρατός είχε βία απέναντι στους ανθρώπους.
Non, non, il faut faire comme eux. À l'époque 1973, c'est-à-dire ils manifestaient paisiblement, ils demandaient la suite de la dictature de façon paisible, sans employer de moyens violents.
Oui. Ok, merci.
Merci.
Ce qui est extraordinaire, on assiste quand même à des moments forts. Bon, ben voilà, 73, une page est tournée, héroïque, les étudiants ont été bien, le peuple a été bien, et puis voilà, passons à autre chose. Sauf que là, cette mémoire est ravivée, sert de référence et nourrit la lutte actuelle, permet de comprendre mieux la situation. Et comme disent les jeunes filles, il faut qu'on fasse quelque chose nous aussi. Il y a aussi cet héroïsme qui se transmet, où les jeunes se disent « Non, il faut que nous, on soit à la hauteur. Quoi. Il y a quelque chose, il y a un modèle, il y a un exemple. »
Vous vous souvenez le slogan à l'entrée que l'insurrection ne peut pas faire partie des musées en fait. Les choses importantes, ce n'est pas son dehors, pas ici.
Dans la cour, quoi, dans la cour de,
voilà, dans la
de
cour,
l'université.
Et puis dans la manif.
Et dans la rue.
Dans la rue,
dans la rue.
Comme toujours.
Voilà.
Είχαμε ένα καφενείο και ένα πράσινο θρανείο κι ήρθαν κάτι γεγονότα κι άλλαξε η ζωή. Κυριακή στην εκκλησία την ερε λογοκρισία, άμα ακούσεις το δωράκι μπαίνεις φυλακή. Είχε ένα πουλί στα σπίρτα ζωγραφιά και ένα μαύρο φανταράκι μέσα στη φωτιά. Είχαμε έναν αστυνόμο, μια πλατεία και ένα δρόμο κι όταν θέλαμε γυναίκα τρέχαμε μορμή. Έξω από την κάμαρά της γυάλιζαν τα βλέφαρά της μια κοτούλα η ουρανία πέντε η πετινή. Είχε ένα πουλί στα σπίρτα ζωγραφιά και ένα μαύρο φανταράκι μέσα στη φωτιά. Είχε ο γαϊδάρος αμάρι και πατούσε στο φεγγάρι με ένα πόδι ο αστροναύτης μαύρο κι ασημί. Κι όπως έπεφτε η ησυχία ξαφνικά στην επαρχία ένα αστέρι έπεσε στη γη. Με το φώτι του μπακάλι, το φανούρι του παπά, Ηρακλή και Αχιλλέα και ένα μιλητό Θωμά.
On adore ces grandes images qui représentent les révolutionnaires en action, héroïques, avec des drapeaux, des barricades. Là, je ne sais pas si c'est un jour comme ça, mais en tout cas, nous, on se prépare. Et on est chez le quincaillier du coin de la rue, qui vend des cannes à pêche, qui vend des tendeurs à vélo, qui vend des pinceaux, qui vend des plottes de ficelle. Et notre but, c'est d'acheter des lunettes de plongée, des lunettes de piscine et des masques à peinture dont les peintres se servent pour se protéger des émanations de la peinture pour la manif, pour essayer de se protéger des gaz lacrymogènes.
Donc voilà, on va acheter ça. Et je ne suis pas sûr qu'entre ce qu'on va acheter et notre image de révolutionnaire héroïque, tout sera relaté.
Alors, Black et Decker s'écrit de la même façon en grec. Hein.
Alors, ceux qui ont, j'ai trouvé les masques, ceux qui n'ont pas, c'est les casques. Mais ils vont voir si des caisses de chantier, c'est toujours mieux que rien.
Et ça, des masques ?
Des masques, oui. Des masques qu'on a trouvés, qui sont bonnes.
D'accord.
Ah, ça, c'est des lunettes de soudeur, ça, ouais.
Ça rentre les gaz.
Ouais. Ouais, ah.
Les masques sont celles-là, regarde. Ils sont très bien. Ils ont deux cartouches, donc tu peux aspirer assez facilement. Quand il n'y a qu'un filtre, tu dois sucer assez fort. Donc avec les deux filtres, c'est assez...
ça dure assez longtemps.
Oui, tout à fait. Tu peux même faire 2-3 manifs avec.
Forte mobilisation des Grecs contre l'austérité prônée par leur nouveau gouvernement.
Euronews.
Plus de 40 000 personnes ont défilé dans les rues d'Athènes hier soir et 15 000 autres à Salonique.
18 novembre 2011.
Un premier test social pour Loukas Papademos et son gouvernement d'union nationale au lendemain du vote de confiance au Parlement. Des manifestations émaillées d'incidents et d'affrontements parfois violents entre certains protestataires et les forces de l'ordre. En cause, le nouveau tour de vis que doit annoncer le nouveau cabinet ce vendredi pour tenter d'échapper à la faillite sous l'œil très vigilant de la Troïka, Union européenne, BCE, FMI. Des manifestations contre la dictature de l'austérité et des marchés qui rappellent celle des étudiants le 17 novembre 1973 contre la junte des colonels et cette même volonté de ne pas laisser l'espoir céder la place à la résignation et à la fatalité.
Là, il est 16h à Athènes, 17 novembre 2011, manifestation pour commémorer le 17 novembre 1973, mais évidemment un lien avec la deuxième dictature, c'est-à-dire que le 17 novembre 1973, insurrection contre la dictature, et aujourd'hui, l'autre dictature, la dictature des marchés. C'est comme ça, en tout cas, que tous ceux qui sont autour de nous voient les choses aujourd'hui, voient leur époque, voient leur pays, et ils sont très nombreux dans cette manif. Alors là, on n'est pas loin de la fameuse place Syntagma, la grande place d'Athènes, et là, c'est bloqué, c'est paisible. Il fait un beau ciel au-dessus de nous, pas trop froid. Et ce que je remarque, c'est que c'est un public plutôt jeune. Hein.
Oui. Et on dirait que plus ça va, plus la police, ils provoquent des incidents pour pouvoir disperser la manif. Mmh. Ils ont peur d'une masse paisible qui passe à travers les médias comme non violente. Donc, ils savent se débrouiller pour créer des incidents pour justifier l'intervention de la police.
Il y a un commerce, en tout cas, qui marche bien, c'est la vente de masques à gaz et de casques de chantier et de lunettes de piscine. Ce que tu dis, c'est que les gaz lacrymogènes qui sont utilisés là sont particuliers.
Il semblerait que c'est des gaz qui sont achetés à l'armée israélienne, qui ne seraient pas aptes pour des utilisations en cas de guerre, mais non contrôlés pour ce qui est affronter sa propre civilisation. Moi, ce que j'ai vu de mes propres yeux, et ça je peux le témoigner, j'ai ramassé une cartouche utilisée par terre après une manif, elle avait dépassé sa date d'utilisation depuis 10 ans.
Ouais.
Est-ce que tu vois les drapeaux d'un grand poisson,
hein.
Ouais, d'un grand poisson formé par de petits poissons, la gueule ouverte,
chassant
un autre poisson. Ça, c'est l'emblème du groupe Je ne paye pas.
Alors, c'est quoi Je ne paye pas?
C'est une initiative qui s'est formée à la base autour des autoroutes. Et ça, ça a beaucoup révolté les gens parce que parfois, ils étaient obligés, pour rejoindre le village de leurs parents, d'utiliser l'autoroute et de payer une fortune. Et puis, ils ont dit un beau jour, ça suffit, on se met ensemble, on fait des actions, on lève les barres et on passe sans payer. Et après, ça s'est étendu sur ce qu'ils ressentent maintenant être injuste. C'est toutes les impôts et les taxes supplémentaires qui sont prélevées à la population. Et maintenant, ils refusent aussi de payer les factures d'électricité.
Ah, tout le monde nous parle de ça. Tout le monde nous parle de ces factures d'électricité. Il y a une mesure qui a été prise récemment, si j'ai bien compris, une taxe foncière qui a été établie sur la surface de l'appartement, mais qui est liée avec la facture d'électricité. Il faut payer le tout en même temps. Si on ne paye pas cette taxe d'habitation, cette taxe foncière, le courant est coupé. C'est un moyen de pression pour faire payer qui est monstrueux.
L'État sait que là, les gens, ils sont obligés parce que l'hiver arrive. Beaucoup ont des chauffages électriques et donc ils sont obligés de payer.
Ils sont obligés de payer ou alors ils restent dans le noir,
voilà,
sans chauffage.
Oui. Maintenant, ce qui est drôle, c'est que il y a aussi un syndicat assez puissant dans l'EDF, la DI locale. Et ce syndicat, il a annoncé qu'à partir d'aujourd'hui, il va, à tour de rôle, couper le courant pendant 4 heures à différents ministères qui, eux, sont les plus grandes têtes envers l'EDF locale, la DI. Par exemple, le ministère de la Santé, le ministère de la Culture, tous les ministères, ils ont en total une dette de 40 millions d'euros de factures d'électricité impayées. Et maintenant, ils se sont dit, ben, c'est pas que le petit monde, maintenant, on va aussi arrêter le courant au ministère. L'affiche ici qui dit, nous soutenons la place Syndagma, nous en allons pas si ne part pas le gouvernement, la Troïka et la dette. C'est le front de solidarité des indignés.
Là, je suis en train de penser à un article fameux d'Ignacio Ramonet qui disait « désarmer les marchés ». C'est un texte qui, je crois, date de 98. Donc, il y a 15 ans, désarmer les marchés. Et ça semblait abusif, ça semblait une métaphore, ça semblait... Aujourd'hui, c'est vrai physiquement, quoi. Les marchés sont vus comme l'équivalent d'une dictature.
Deuxième plan d'austérité, ça a été déjà tout juste toléré. Parce que là, les gens, ils se sont rendus compte qu'on bradait l'héritage, le patrimoine national. Et là, le troisième, maintenant, c'est réellement la résistance. Parce que là, ça touche à la fierté nationale dans le plus profond. C'est-à-dire, les Grecs, c'était un peuple de résistants. Ils ne sont pas découverts résistants en 1944. Beaucoup te le disent aujourd'hui. On a foutu dehors les Allemands en 1944. Maintenant, ils reviennent sur le chemin économique.
Tu te rends compte ?
C'est incroyable.
C'est-à-dire que l'Europe, qui était censée réunir les peuples, les Européens, maintenant, on en est au retour des nationalismes. Et c'était pourtant l'argument de vente numéro un pour nous faire voter oui à l'Europe.
Mais ce n'est pas que les gens qui se déclament nationalistes. C'est réellement quelque chose qu'ils se sentent menacés. Et cette histoire d'observateurs allemands, par exemple, ou autres, étrangers dans les ministères, c'est quelque chose qui a suscité une énorme susceptibilité chez les Grecs. Papademos arrivera la même chose qu'à Gaddafi.
Alors, 17 novembre 1973, évidemment un moment, très grand moment pour Athènes, pour les Grecs en général, puisque à partir de cette insurrection des étudiants à l'intérieur de Polytechnique et de la population autour de l'université, à partir de cette insurrection, ce sera la fin des colonels qui sont pris de panique face à cette insurrection, face à ce rassemblement, et qui envoie des tanks, ils envoient des chars d'assaut, une dizaine de chars d'assaut, des militaires. Alors il y a plusieurs interprétations, évidemment, parce que ça rentre dans les mythes, dans les grands mythes grecs, c'est le cas de le dire. Et il y a des héros, il y a ceux qui sont... il y a les renégats, c'est-à-dire ceux qui étaient là, qui sont comportés d'une façon formidable et qui ensuite sont rentrés dans les partis politiques, dans les gouvernements et se sont compromis. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a ceux qui sont restés fidèles à leur jeunesse et c'est le cas de Dimitri Papachristos qui, lui, était à la radio. Il y a eu une radio dans cette université. Ça ne devait pas être grand-chose, ça ne devait pas avoir plus de portée qu'un porte-voix. Mais ça a existé et Dimitri était là. Où était placée cette radio ?
À l'intérieur du Polytechnique.
D'accord. Et toi, tu faisais quoi dans cette radio ? Tu étais animateur ? Tu étais.
Εγώ ήμουνα αυτός που μιλάει για κούτε. Που έλεγε όχι μόνο τα συνθήματα και είχα γίνει φωνή αυτής της εξέγερσης και την ίδια στιγμή.
J'étais celui qui était la voix de cette radio. Je m'adressais aux gens. J'exprimais ce que les gens avaient à dire à cette gente et à eux-mêmes.
T'avais quel âge à l'époque?
Ήμουν 23 χρονών.
J'avais 23 ans.
Μόλις είχα βγει από τη φυλακή και από το στρατό που μας είχαν επιστρατεύσει. Φοιτητής ήμουνα.
Je venais de sortir de la prison militaire parce que étudiant m'avait enrôlé dans l'armée.
Ήταν άγρια τα πράγματα. Η Χούντα ήταν να πέσει. Αλλά εμείς δεν θέλαμε να γκρεμίσουμε μόνο τη Χούντα. Θέλαμε να γκρεμίσουμε το καθεστώς, το καπιταλιστικό και ονειρευόμασταν ένα άλλο κόσμο.
Les choses étaient très dures et la gente était sur le point de tomber, mais ça nous intéressait pas que seulement que la gente tombe, mais le capitalisme tout court.
Ξέραμε ότι ήταν Αμερικάνια από πίσω, ήταν το ΝΑΤΟ, ήταν οι Κονελένοι εδώ, δηλαδή τα φερόφωνά τους. Ξέραμε ότι τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, αλλά ξέραμε όμως ότι όταν πέσουν αυτοί δεν θέλαμε να έρθουν οι άλλοι που ήταν οι πολιτικάδες που τους φέρανε.
Et nous étions évidemment conscients que ça tenait seulement grâce aux Américains, que c'était leur laquais. Mais ce qui nous importait à nous, c'était que pas à nouveau soit un gouvernement marionnette.
Δυστυχώς, βλέπω μπροστά μου τα ίδια πράγματα. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Η Χούντα δεν έπεσε το 73.
Et là, je vois la même chose aujourd'hui. Le slogan pain, éducation, liberté. Et la junte qui ne s'est pas terminée en 73.
Τώρα έχουμε μια Χούντα που είναι στις Βρυξέλλες, Διεθνώς Νομισματικό Ταμείο, η Τράπεζα η Κεντρική, η Ευρωπαϊκή, βάλε και την Ενωμένη Ένωση που δεν είναι ενωμένη και βάλε αυτούς που εκμεταλλεύονται και δίνουν σε εμάς δάνεια για να μας έχουν 300 χρόνια ξανά υπόδουλους.
Maintenant, nous avons une junte à Bruxelles composée de la Banque Centrale, du Fonds Monétaire International et de l'Europe Unie qui n'est pas unie.
Μας έχουν πάλι υπόδουλους για χρόνια.
Pour nous avoir à nouveau esclaves pendant des années.
Να προσέξετε και εσείς οι Γάλλοι, γιατί θα έρθει η σειρά σας.
Mais attention, votre tour arrive, les Français.
Oui. C'est déjà le tour des Italiens.
Italien, Ισπανία.
C'est le Portugal. Espagne, Portugal.
Έρχομαι σήμερα από μια περιοχή από τον Κορυδαλό. Μιλούσα με μαθητές 18 χρονών, με τρία λύκεια και αισθανόντουσαν ότι και αυτά τα παιδιά για πρώτη φορά συνειδητοποιούν ότι το πολυτεχνείο το έχουν ανάγκη περισσότερο.
J'arrive aujourd'hui dans un quartier qui s'appelle Corydalos. J'ai parlé avec des jeunes lycéens qui, à mon avis, ont compris pour la première fois que le 17 novembre les concernait personnellement.
Τώρα αισθάνονται και αυτό που έγινε τότε, που δεν είχαν γεννηθεί και εμείς σήμερα είμαστε οι πατεράδες και οι παππούδες τους, ότι πρέπει να συνεχίσουν από εκεί που δεν φτάσαμε εμείς.
Et ils ressentent que maintenant une époque qui ne les a pas directement concernés, mais plutôt nous, leurs pères et grands-parents, les concerne eux aussi et il faut qu'ils arrivent à passer au-delà d'un point que nous n'avons pas atteint à l'époque.
Για μένα είναι πιο σημαντικό να συνειδητοποιήσουν και τι έγινε, αλλά και τι γίνεται και θα έχει να κάνει με τι μέλλον θα φτιάξουν. Με το δικό τους μέλλον και με τα δικά τους πολυτεχνία.
Et j'estime que c'est particulièrement important pour qu'ils réalisent ce qui s'est passé dans le passé, ce qui se passe présentement pour arriver à faire leur propre bataille du polytechnique, leur polytechnique.
Διότι θα έρθει και η σειρά τους.
Parce que ça va arriver chez eux aussi.
Là, on approche de l'ambassade des États-Unis. Mais jusque-là, en tout cas, c'est calme.
C'est quoi les slogans? Ça, c'est encore le slogan « Peuple en avant, on ne baisse pas la tête ». La seule réponse, c'est « Soulèvement encore et encore ».
Et toutes les rues latérales sont bloquées. Hein. Il y a quand même des cordons de police tout autour.
Il n'y a pas un coin de rue si tu vas dans les rues latérales où tu ne tombes pas sur des massifs contingents de police. Mais ils sont discrets, ils ne veulent pas provoquer.
Eat the rich. Manger le riche.
Juste en continuation de manger le riche, il y a liberté, guerre à la guerre des patrons.
Alors voilà, on est devant l'ambassade des États-Unis à Athènes. Là, c'est un début de la manif de ce 17 novembre. L'ambassade est cernée d'une double haie de cars de police. Et ensuite, il y a une haie de 4 ou 5 militaires policiers qui sont par centaines, avec leurs casques blancs et leurs boucliers, tout autour de l'ambassade. Et les manifestants continuent d'arriver. Ah, un peuple, regarde. Ça, c'est étonnant.
Oui, c'est plutôt rare. Hein?
Un pop dans la manif.
Il y a quelques pops qui prennent position, qui se mettent du côté des manifestants. Ils ne sont pas nombreux, ils sont plutôt à l'exception.
Ah,
et,
oui,
qui pestent contre un État qui est aussi impitoyable envers ses citoyens.
C'est étonnant, dans cette manifestation, vous êtes on trouve un pop. Est-ce qu'on peut vous demander la raison de votre présence ici?
Η παρουσία μου εδώ είναι 38 συνεχή χρόνια και εμένα και κάποιων άλλων κληρικών οι οποίοι τώρα είμαστε διασκορπισμένοι. Ερχόμαστε εδώ διότι συμφωνούμε με τα αιτήματα αυτού του λαού που βλέπετε.
Nous sommes ici depuis 38 ans, moi et d'autres pop, parce que nous sommes d'accord avec les exigences du peuple.
C'est parti là, ça y est, on est complètement encerclé là par les bombes lacrymogènes. Il faut mettre le masque à gaz là. Il y en a partout autour de nous et ils sont en train de repousser les manifestants. Et là du coup, il y a des manifestants qui balancent des pavés sur un hôtel, un grand hôtel. C'est quoi les slogans?
C'était le sempiternel flic port assassin. Et là, on entend le bruit caractéristique qu'on est habitué à entendre de vitres qui sont brisées à coups de masse. C'est comme d'habitude des banques. En immédiate proximité d'un pâté plus haut que l'ambassade américaine, les gens ils s'acharnent en colère contre les vitres d'une banque.
Ils sont en train de taper en fait sur les rideaux métalliques, hein, c'est ça, ouais. Et en train de casser toutes les enseignes.
Là, c'est le bruit de marbre qui sont cassés pour faire des projectiles contre les policiers.
Oui, ça c'est presque rituel, non? C'est fin de manif, quoi.
C'est, oui, surtout celle du 17 novembre, c'est quasiment inévitable.
Ah, lacrymo. Donc là, il y a un cordon de police.
C'était De la dictature des colonels à la dictature des marchés, un reportage de Daniel Mermet et Antoine Tchaou à Athènes. Merci à Fabien Perrier du journal L'Humanité, à Thomas Jacobi, Hélène Cérézolé et Statis Kouvelakis, à Guy Vanctil pour le montage. Vous retrouvez toutes les informations sur le site la-bas.org. À la technique, Rémi Quincé et Fabien Laléouze, réalisation Bertrand Chometon et Franck Aderer, Marina Touillez, assistante. Grégory Salomonovitch attend vos messages au 01 56 40 37 37.
Something special happened today.
France Inter présente Aloé Black en concert. En tournée dans toute la France.
No big red sign to stop me.
Et au Casino de Paris le 29 novembre.
No traffic jam delay.
Retrouvez Aloé Black dans le programme musical de France Inter.
Something special happened today.
Et sur franceinter.fr. France Inter, 16h01, les informations, Laetitia Gaillet.
Le Sénat hier, les députés aujourd'hui, ils ont donné cet après-midi leur confiance au gouvernement de Mario Monti en Italie dans son discours de politique générale. Le successeur de Silvio Berlusconi a exhorté la classe politique italienne à ne pas entraver l'action de son gouvernement de technocrate. En écho, Silvio Berlusconi a déclaré aujourd'hui qu'il était prêt à accepter que le gouvernement de Mario Monti reste en place jusqu'au terme de la législature en 2013. Il s'est défendu d'avoir dit à des proches de son parti qu'il pourrait débrancher la prise du gouvernement Monti quand bon leur semblerait. Benoît XVI, lui, est arrivé cet après-midi au Bénin. Son voyage durera 3 jours. Au programme, une traversée de Cotonou en papamobile, ensuite visite de la cathédrale. À cette occasion, le pape remettra aux délégations d'évêques du continent africain la feuille de route du Vatican. Mais dès son arrivée à Cotonou, lors d'un premier discours tout à l'heure, Benoît XVI s'est épanché sur la crise. Le souverain pontife a mis en garde contre la soumission inconditionnelle aux lois du marché. En France, l'état de catastrophe naturelle suite aux inondations de début novembre dans le sud de la France. L'arrêté a été signé aujourd'hui pour 312 communes sinistrées. Il sera publié demain dans le journal officiel et il va permettre bien sûr le déclenchement des mécanismes d'assurance. S'il n'y avait pas eu l'affaire du Sofitel, il y en aurait eu une autre dans la campagne. C'est Henri Guénaud qui le dit aujourd'hui dans l'émission qui sera diffusée ce soir sur Paris Première, Zemmour Nolo. Le conseiller spécial de Nicolas Sarkozy estime que si DSK n'avait pas été arrêté à New York, il aurait remporté la primaire socialiste. Mais l'affaire du proxénétisme, ou plutôt l'affaire de proxénétisme du Carlton de Lille avec le proxénète Dodo Lassemur, aurait fait alors irruption dans la campagne. Selon Henri Guénaud, les campagnes présidentielles sont des épreuves de vérité humaine. On ne peut dissimuler ce que l'on est, surtout quand on est un candidat de premier plan, dixit Henri Guénaud. Autre affaire de proxénétisme, celle concernant le milieu du foot et notamment Ribéry. Dans ses réquisitions rendues mercredi, le parquet de Paris affirme que le joueur français ne pouvait pas savoir que la fameuse Zaya était mineure. D'après l'avocate de Franck Ribéry, ses conclusions vont dans le sens d'un futur non-lieu. Karim Benzema, joueur du Real Madrid, est lui aussi poursuivi dans cette affaire pour sollicitation de prostituées mineures. La fraude sociale un jour, l'industrie le lendemain, chaque jour son thème de déplacement pour Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui donc, le chef de l'État s'est rendu à Avignon pour parler culture. Voilà qui devrait vous intéresser, monsieur Varro. Et pour à cette occasion, le chef de l'État a annoncé qu'il voulait mettre à contribution les fournisseurs d'accès à Internet. Nicolas Sarkozy a confirmé sa volonté en fait de mettre en place un centre national de la musique, centre qui aura pour mission de favoriser la création musicale et qui sera donc financé par une taxe sur les fournisseurs d'accès à Internet. Le système, dit-il, s'apparentera à ce qui est fait avec le CNC pour le cinéma. C'est aussi pour le chef de l'État une façon de protéger la création artistique. Peut-être que vos invités auront un avis sur la question. Je les vois ébahis, Didier Varro. 16h04 sur Inter.
Lundi, à partir de 7h, matinale spéciale sur France Inter, en direct de Madrid.
Les Espagnols votent dimanche. Et toute l'Europe attend de savoir ce qui sortira des urnes de ce pays en crise où le chômage explose. Jusqu'à 10h, avec Pascal Clark, Patrick Cohen et leurs invités, reportages et analyses en direct de l'Institut français de Madrid.
Matinale spéciale en direct de Madrid, à retrouver lundi sur France Inter, à partir de 7h. France Inter.
La différence.
Et salut.
Ça va, Laetitia Gaillet.
Ça va très bien.
Je ne sais pas si on va être à la hauteur avec Émilie Simon et Léa Ron au regard de Dodo Lassemur, c'est ça, Isaiah. Voilà.
Non, mais y a des j'ai dit des trucs intelligents aussi. Ouais, non,
on vous retrouve à 17h.
À
plus tard. C'est parti.
Quand la musique donne.
Rock, musique électro, techno,
chanson,
rap. La musique d'aujourd'hui, en fait, de la musique moderne.
La musique, elle est juste là, comment ? C'est une vibration.
Didier Varro.
Elle est née à Montpellier. Ils sont nés à Paris et Brétigny-sur-Orge. Elle a beaucoup d'enfance en elle. Ils aiment dire, comme Oscar Wilde, pour retrouver sa jeunesse, il n'y a qu'à recommencer ses folies. Elle a écouté les Beatles en boucle. Ils auraient aimé être Nina Simone ou Jeff Buckley. Elle est née une seconde fois à New York. Ils sont comme les mots de Jean Giono, « Sois fou, on n'est jamais assez fou ». Elle a toujours de la couleur dans ses chansons. Ils sont hantés par la jeunesse brûlée de Basquiat. Elle cultive les fleurs de saison, les lotus, les roses hybrides de thé. Ils aiment les oiseaux dans la tempête, les vagues et les grains d'or. Elle a été Sinfonietta. Ils ont été symphoniques. Il y a du cinéma dans sa musique. Il y a des grands espaces dans leur composition. Elle sait la douleur de la disparition. Ils savent l'absurdité de la mort. Elle est belle. Ils sont beaux. Elle a conjugué son Frankie Knight à la délicatesse, adaptée sur grand écran. Ils vont conjuguer leur Birds in the Storm en version Playel. Elle est auteur, compositeur, interprète, eux non plus. Elle s'appelle Émilie Simon, il s'appelle Aaron. Deux noms en deux initiales. Quand la musique donne, voici venir donc S.A. S.A. non pas comme société anonyme, tant ce S.A. est riche de personnalité. Simon, Aaron, cet après-midi c'est Émilie Simon qui rencontre le groupe Aaron sur France Inter, l'endroit pour une drôle de rencontre. Bonjour Émilie Simon.
Bonjour.
Bonjour les Aaron, bonjour Simon, bonjour Olivier.
Bonjour.
Ça va bien ?
Ouais, très bien.
Vous connaissiez ?
Oui.
C'est vrai ?
On se connaît, ouais.
Vous vous êtes rencontrés où et quand la première fois ?
New York la première fois.
Oui.
Et ensuite, plusieurs fois à Paris. Et puis, une fois, la dernière fois, il n'y a pas très longtemps, l'été dernier,
Mois de juin.
Mois de juin, voilà. Donc oui, on se connaît bien.
Alors si je devais demander à Émilie Simon pour démarrer cette rencontre, qu'est-ce que tu aurais envie de poser comme question à ces deux grands gaillards du groupe Aaron?
Alors, je me disais, j'ai vu finalement il n'y a pas si longtemps que ça le film de Philippe Lioret, Je vais bien, ne t'en fais pas. Mmh. Et j'étais très heureuse de pouvoir enfin entendre, voir le film et entendre la fameuse Lily. Voilà. Et je me demandais si c'est quelque chose que vous avez envie de recommencer, enfin, ou peut-être d'appliquer ça à un film, d'écrire pour le cinéma. Est-ce que c'est quelque chose qui vous branche?
Bah, on se posait la question et en fait la vie a fait que on s'est retrouvé un peu par un heureux hasard que j'ai manigancé à faire la BO du film dans lequel j'ai joué il n'y a pas très longtemps. Donc on est en train de faire ça en ce moment.
Ah ouais. Bah super.
Et c'est une expérience vraiment nouvelle. Il y a un autre rapport entre Olivier et moi que je trouve génial parce que d'un coup on n'est plus dans notre musique mais on est dans de la musique qui sert un film, de l'habillage sonore, enfin des choses comme ça. Et c'est vraiment très excitant. C'est un monde qu'on connaissait pas et on se marre bien. Moi, je retrouve un truc. C'est pas de la composition d'album, c'est pas des chansons, c'est autre chose encore. Et on est là. Bon, après, faut faire abstraction qu'il y a ma tête à l'écran, mais voilà. Sinon,
c'est vrai que c'est encore un exercice complètement différent.
Ouais, c'est un gros kiff.
Alors, vous aurez l'occasion d'en reparler avec Émilie Simon, qui vient de se prêter à l'exercice pour un film qui sortira fin décembre, qui est donc l'adaptation du roman de Fonquinos, La Délicatesse, film que j'ai eu l'avantage et l'honneur de voir en projection. Une petite question à Émilie Simon. Alors, c'est Olivier ou Simon qui s'y colle?
Moi, j'en ai une. Je voulais savoir comment tu en étais venu à faire de la musique, en fait, et à te dire, voilà, je vais chanter, je vais créer des choses.
Alors, j'ai commencé la musique très jeune. Mes parents m'ont mise au conservatoire quand j'avais à peine 7 ans, je crois. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis en écoutant beaucoup de disques qu'il y avait à la maison, donc notamment les Beatles.